nous retrouvons sur cette libre antenne. Je vous rappelle le numéro 3921 si vous voulez me contacter pour pouvoir échanger avec moi sur tous les sujets qui vous préoccupent ou qui vous mettent en joie. Parce qu'il n'y a pas que les chagrins que nous pouvons évoquer, bien évidemment. De même, vous pouvez faire vos témoignages pour permettre aux uns et aux autres qui n'osent s'exprimer et bien de faire écho à leurs propres réflexions et nourrir leurs réflexions ainsi. Vous pouvez aussi envoyer des SMS. Vous êtes un peu discret sur les SMS ce soir. Je vous rappelle que c'est le 739-21, suivi du mot « nuit » en capital et de votre message. Si vous voulez réagir à ce qui est dit à l'antenne ou si vous voulez nous passer le moindre message, même en décalé avec ce qui est dit à l'antenne. Voilà, nous recevons à présent Marie. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Oui, je vous remercie. Et vous Marie ?
Ça va, ça va.
Alors racontez-moi, de quoi parlons-nous ? Dites-moi.
Alors, moi je vous appelle parce qu'en fait je rencontre certains problèmes.
Oui.
Vis-à-vis de ce sujet-là. En fait, je vous explique. Avant de parler de la sexualité, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais même pas que ça existait. Et je pense que j'en suis... Enfin, je ne sais pas que c'était pas du tout une maladie. J'ai vu que c'était une orientation du coup sexuelle. Et je voulais savoir, du coup, comment est-ce qu'on pouvait savoir si on l'était, en fait.
Alors, je ne comprends pas bien, Marie. En fait, vous voulez savoir quoi ? Vous parlez d'orientation sexuelle. Vous avez le sentiment, vous pensiez que c'était une maladie de ne pas être orientée de façon hétérosexuelle, c'est ça ? Vous êtes homosexuelle, vous ?
Non, du tout. En gros, je vous explique.
Voilà, expliquez-moi.
J'ai un copain.
Oui, vous avez
un copain, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, je n'ai jamais ressenti quelque attirance sexuelle que ce soit. Je n'ai jamais, enfin...
D'accord.
Envers quelqu'un, en tout cas. C'est très rare. C'est très, 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 très rare.
Y compris pour votre copain.
Non. Mon copain, lui, il a une attirance au milieu, ça c'est normal, etc.
D'accord. Et vous avez une attirance pour lui ?
Moi, j'ai une attirance romantique, c'est-à-dire que...
C'est ça, voilà. C'est très bien.
Il me plaît, etc. Je suis amoureuse de lui.
Oui.
Mais du côté, du coup, de la sexualité, c'est totalement différent. Et même, c'est déséquilibré déjà de 1, mais je sens que c'est moi qui ai très, 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 très peu de libido.
D'accord, très bien. Vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 21 ans.
Vous avez 21 ans, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui n'est pas qu'avec votre copain, c'est quelque chose de toujours. Vous n'avez jamais eu le sentiment d'être animé de libido, animé de désir sexuel.
Exactement. Exactement. Je pensais qu'avant, c'était lié du coup au sentiment que je pouvais ressentir envers mon partenaire qui n'est pas celui avec qui je suis actuellement.
Oui.
Et je me rends compte que même quand je suis amoureuse, il n'y a pas forcément d'évolution vis-à-vis sur ce point-là, en tout cas. Donc, je voulais savoir, du coup, est-ce qu'on peut poser un diagnostic sur les personnes qui sont asexuelles ? Comment est-ce qu'on peut savoir si on est asexuel ? Parce que du coup, c'est ce que je soupçonne, en quelque sorte.
Alors, c'est une question très intéressante et je vous remercie, Marie, d'en parler parce que souvent, les gens ont beaucoup de frilosité à oser parler de sexualité comme si c'était honteux parce qu'on a tendance à lire un peu à droite et à gauche que tout le monde s'en sort très bien, que c'est facile pour tout le monde et à tel point que du coup, il faut que naissent des courants qui se disent nous, on n'est pas de ce genre-là ou on n'est pas de ce rythme-là et donc on est peut-être asexué. Voilà, on fait des mélanges parce que finalement, on laisse à penser que la sexualité est un élan facile, spontané, naturel. Or, là, ce qui est naturel, c'est effectivement un élan de reproduction, mais nous ne sommes pas des animaux. La sexualité, c'est beaucoup plus précieux que ça, beaucoup plus riche et donc beaucoup plus torturé, puisque ça veut dire qu'on va vers l'autre, au-delà de la notion sexuelle, on va vers l'autre pour plein de projets, dont celui de la sexualité potentiellement, mais dans votre cas, pour tous les autres projets, sauf celui de la sexualité. Et évidemment que comme notre société laisse à penser que tout le monde a envie de faire l'amour tout le temps, vous vous sentez complètement en décalé par rapport à cela, et vous vous raccrochez à un mot, un nom qui court dans les magazines et très justement, c'est-à-dire moi je ne suis donc pas sexuelle, je suis asexuelle, je n'ai pas de sexualité. Alors essayons de remonter un petit peu les choses parce que d'abord quand vous disiez de dire un diagnostic qui serait donc le vôtre, qui permettrait de mettre une étiquette. Moi, j'ai tendance à ne pas vouloir mettre d'étiquette parce que ce serait vous enfermer. Mmh. C'est plutôt essayer de comprendre ce qui est à l'origine de ce qui se passe pour vous. Et on va essayer d'avancer un petit peu ensemble là-dessus, ce qui permettra d'éclairer un certain nombre d'autres personnes dans la même situation que vous et qui souvent souffrent parce qu'ils ont l'impression de ne pas arriver à rejoindre l'autre à un rendez-vous que tout le monde dit extraordinaire, alors que rien, aucun élan en eux ne vont dans cette direction-là. Alors, d'abord, il faut dire une chose, Marie, vous êtes toute jeune, vous avez 21 ans. Des gens de 21 ans, vous avez tout le temps de vous construire, d'où l'importance de ne pas mettre des étiquettes collées à la superglue. Mais autant, il y a des gens de 21 ans qui sont excités comme des puces, sans même prendre le temps de se rencontrer, de s'aimer, mais qui veulent faire l'expérience de la sexualité pour la sexualité. Et puis d'autres, bien avant d'ailleurs, dès leur puberté, sont très sont dans les starting blocks pour se dire vivement quand je serai grand pour pouvoir le vivre. Donc effectivement, il y a des rythmes différents selon les individus. Mais ce qui fait notre sexualité, ce sont deux choses. D'une part, un élan physiologique, donc ça pose la question de notre organisation hormonale, de notre... Alors quand je dis hormonale, c'est pas que génital, hein, c'est aussi toutes les hormones qui gèrent notre pulsion de vie, notre joie à la vie, notre sentiment d'être, notre confiance en nous, toutes ces hormones cumulées participent de notre désir sexuel. Donc elles peuvent être en difficulté au niveau de votre cycle, par exemple, vous pouvez avoir un cycle qui est perturbé ou pas. Est-ce que, par exemple, ça, tout fonctionne bien depuis longtemps ou est-ce que vous subissez des hauts, des bas, des absences? Comment les choses se passent pour vous de ce point de vue-là?
Au niveau du cycle hormonal?
Oui.
C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est déséquilibré. C'est pas équilibré, quoi.
D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des
moments...
Il y a des moments où ça marche, et des moments où ça ne marche pas, ça disparaît, ça revient. C'est ça. D'accord.
Exactement. Ouais.
D'accord. Donc déjà, là, avant de faire de la psychologie qui serait de la psychologie de kiosque, il faut d'abord voir la réalité du corps, les compétences qu'a le corps pour pouvoir s'exprimer dans la sexualité. Parce que contrairement à nos autres pulsions, à savoir la pulsion de respirer, de déféquer, uriner, l'urgence de manger. Tout ça, c'est vital. Donc, le corps se met en branle immédiatement pour pouvoir subvenir à sa survie. La sexualité n'est pas vitale, si ce n'est du point de vue de l'espèce, hein, pour se reproduire. Mais sinon, on peut vivre toute une vie tout à fait confortablement, sans risquer quoi que ce soit et aucune maladie, sans jamais faire l'amour. On vivra et on mourra comme tout un chacun, mais nous ne laisserons pas nos gènes derrière nous. Donc, ce n'est pas une obligation de faire l'amour, quoi que puisse en dire notre société qui le met très très en avant. Donc, pour ce faire, dans la mesure où votre corps est pour X raisons qui seraient à définir, évidemment, là auprès d'un médecin, d'un gynécologue, par exemple, dans la mesure où votre corps est déséquilibré, connaît des déséquilibres, votre corps essaie de se dépatouiller comme il le peut, et évidemment, il n'a pas nécessairement l'énergie pour mettre en place ce qu'il lui faudrait pour que sa sexualité tourne confortablement ou s'exprime confortablement. Donc, il me semble que la première des choses, avant de vous mettre une étiquette sur le front, ce serait déjà de mettre votre corps en paix, en équilibre, pour que vos règles viennent comme elles doivent venir, ni en douleur, parce que là aussi, c'est pas normal d'avoir des règles douloureuses, qu'elles ne viennent pas, parce que c'est plutôt confortable de pas les avoir, parce qu'on se dit, voilà, je suis pas embêtée, sauf que c'est un cycle qui ne se fait pas, un cycle qui s'éteint, qui se rallume, qui s'éteint, qui est pas très, très fixe, et qui raconte un déséquilibre corporel. Donc, il me semble important de faire déjà un petit check de ce côté-là, quel qu'en soit le résultat, enfin pas pour obtenir la sexualité, mais pour être dans votre équilibre personnel. Jusque-là, vous me suivez?
Oui.
Est-ce que, donc, voilà, parce que là encore, est-ce qu'au niveau alimentaire, vous êtes quelqu'un qui mangeait, vous mangez peu, comment vous êtes, je ne sais pas, dites-moi un petit peu, c'est parce que je ne vous vois pas, donc je ne vous vois pas physiquement.
Oui. En fait, ça varie franchement. Enfin, ça varie en fonction de ma période de règles, en fait. Pendant mes règles, je mange énormément.
Oui.
Mais les 3 autres semaines, ça va être assez peu. Ça va pas être équilibré. Je prends pas 3 repas par jour, quoi. C'est vraiment, je mange quand j'en ai envie. Je fais 1,60 m pour 50 kilos.
D'accord.
Du coup, ouais, mon IMC est dans la normale, entre
Voilà.
guillemets.
Voilà. Donc, ce que je voulais savoir, c'est parce que là aussi, vous comprenez que pour qu'un corps fonctionne bien, il faut pouvoir manger. Alors, il y a ceux qui mangent trop, et il y a ceux qui ne mangent pas assez. Et quand c'est de pas assez, bon, vous n'êtes pas dans le cadre de quelqu'un qui serait anorexique, mais vous voyez bien qu'il y a des moments où vous mangez. Certes, comme vous voulez, vous avez raison, on n'est pas obligé de manger tous les repas pour tous les repas, mais il est important d'avoir des protéines, d'avoir tout ça qui permet des protéines, des vitamines, qui permettent au corps de pouvoir fonctionner correctement et pour que votre équilibre physiologique puisse se faire, se mettre en paix, pour que votre corps, parce que sinon le corps, évidemment, il s'économise, il ne s'épuise pas à créer des ovocytes. Il a tendance, s'il manque de certaines choses capitales pour lui, il a tendance à mettre en veille certains fonctionnements, dont votre fonctionnement hormonal notamment. Donc ça, c'est quelque chose sur
D'accord.
lequel il vous faudrait être vigilante, faire un petit bilan au niveau chez votre gynéco, faire un petit bilan peut-être un peu plus général chez un généraliste pour voir un peu comment vous fonctionnez. Regardez aussi et ne pas oublier de regarder ce que vous consommez parce que ce que vous mangez a une incidence directe sur votre état d'être, aussi bien en termes moraux qu'en termes physiologiques. D'accord?
D'accord,
Alors
OK.
maintenant, pour revenir sur pour revenir sur ce qui est la partie psychologique. Comment la sexualité, depuis que vous êtes petite, vous la regardez comment? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dégoûte? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez été bousculé par des discours, par des images, par des situations, par des accidents de parcours? Quelle a été un peu votre histoire autour de ce sujet?
Bah en fait, moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je me suis jamais posé de questions, que ce soit sur la sexualité ou la sexualité en général. En fait, c'était pas un sujet, ça n'a jamais été un sujet qui m'intéressait.
Oui.
Ça m'a jamais vraiment intéressé, donc j'avais pas d'avis du coup, ni sur la sexualité, ni sur la sexualité du coup. Et à partir du moment où j'ai eu un copain, ça m'a posé énormément de problèmes parce que j'avais l'impression, entre guillemets, de pas être normale,
Parce
de
que
pas être
lui a
comme
une
les
attente,
autres.
parce que lui a une attente à laquelle vous n'arrivez pas à
Déjà,
répondre.
donc une attente que, enfin, on va dire que là actuellement, bah, ce que je ressens actuellement, c'est vraiment oui, quelque chose que je ne peux pas donner, quelque chose qu'on attend de moi que je ne peux pas donner. Donc c'est plus de la frustration. Plus qu'un jugement que je vais porter, par exemple, vis-à-vis des autres,
Bien
enfin de
sûr,
la
je
société
comprends.
en général, mais c'est vraiment au sein de mon couple. Donc, je sens que mon copain a des attentes que je ne peux pas lui apporter, et c'est plus ça qui me pose problème. Et oui, j'ai l'impression de, entre guillemets, de ne pas être normal. J'arrive pas. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ça va. C'est pas aussi facile que les autres, quoi.
Bien sûr, je comprends très bien ça parce que, évidemment, alors d'abord, est-ce que c'est votre premier petit ami ou vous en avez eu d'autres et que c'est le même scénario qui s'est joué? Ou vous n'en avez pas eu puisque vous n'aviez pas de désir et du coup, vous n'avez pas créé de lien?
Alors j'ai eu un premier petit copain, mais j'avais pas de sentiments, donc je me suis jamais vraiment posé de questions. Mais oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais aucune attirance, mais je mettais ça du coup sur le coup de mon manque de sentiments. Mais maintenant, je suis dans une relation où je suis totalement épanouie, où je ressens des sentiments amoureux pour cette personne, et bah c'est toujours le même problème.
Et lui, il parle de sexualité?
Bien sûr, ouais, bien sûr, on en parle, mais du coup là, bah, depuis que je me suis rendu compte que, je trouvais toujours des excuses en fait à mon manque de libido, je trouvais toujours des excuses, c'est-à-dire que un coup j'étais fatiguée, un coup c'est parce que je prenais la pilule, un coup c'est parce que c'était religieux, un autre coup, enfin voilà, mais je sentais bien qu'en fait au fond de moi, il y avait vraiment, enfin,
Oui,
c'est pas que
il y
je
a un
ne voulais pas, je pouvais
starter qui ne
pas,
se
c'est
fait
ça.
pas en fait.
C'est ça exact. Donc du coup, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à en souffrir, entre guillemets, de cette situation, de pas me sentir à la hauteur, etc.,
Mon copain et moi, on a décidé de faire entre guillemets, ouais, un vœu d'abstinence
D'accord.
jusqu'à qu'on puisse expliquer déjà pourquoi est-ce que. Enfin, d'expliquer et de trouver aussi des solutions, même pas pour moi me donner plus de libido, mais simplement pour essayer de trouver un équilibre entre lui et moi.
Bien sûr,
Donc.
pour que vous ne vous sentiez pas harcelé, lui
C'est
harceleur
ça.
contre son gré. Donc
Exactement, ouais.
c'est un pacte que vous vous faites pour pouvoir développer toute la relation amoureuse en connaissance de cause.
C'est ça, exact.
Oui,
Et depuis
c'est
ce
très joli.
moment-là, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce que enfin, chaque soir, je me disais, mais un couple normal l'aurait fait et moi, je ne peux pas le faire. Donc, c'était vraiment une pression au quotidien, tous les jours. Alors
Merci.
que la pression ne venait même pas forcément de lui, hein, ça venait vraiment de moi. Et après, maintenant on a décidé qu'on s'est mis d'accord, lui et moi, la question ne se pose plus. Donc, moi, je vais beaucoup mieux du coup.
D'accord. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps?
Ça va faire 9 mois.
9 mois, d'accord. Et alors, vous avez une fratrie, des sœurs, des frères, ou vous êtes fille unique?
J'ai 2 petits frères.
Deux petits frères, d'accord. Donc, eux ne sont pas encore dans cette préoccupation, ils ne sont pas encore en train de créer des
Non.
relations, des couples, etc.
Non, pas
Non.
pour l'instant. J'ai un petit frère de 17 ans,
Oui.
mais qui n'est pas en relation, qui ne l'a jamais été d'ailleurs. Et j'ai un
D'accord.
tout petit frère de 10 ans, donc.
Donc, votre frère de 17 ans, lui-même, n'a jamais flirté, enfin, il n'a jamais eu une petite copine ou un petit copain d'ailleurs.
Ouais, non.
Non.
Non, tu vois, mais non.
D'accord. Alors, dites-moi un petit peu, Marie, dans quel contexte avez-vous grandi? Quels parents? Quel discours autour du sujet de la sexualité? Quelle relation de vos parents entre eux? De votre relation avec vos parents? Quelle tendresse ou pas? Enfin, comment les choses se sont passées pour vous?
Alors, déjà, on ne parle pas du tout de ça. C'est un
Oui.
sujet tabou vis-à-vis, enfin, de la religion. C'est un sujet tabou. Après, on ne m'a jamais mis de pression par rapport à ça. On ne m'a jamais interdit d'en parler. C'est juste qu'on n'en parlait pas et moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Mes parents, je les ai toujours connus en conflit.
Oui.
Donc, je n'ai pas vu de tendresse entre eux ni d'amour. Mon père et moi, on n'est pas en contact du tout.
Oui.
C'est-à-dire, j'ai des vagues souvenirs de lui quand j'étais enfant, mais ça s'arrête là.
Parce que vos
Je ne me
parents.
rappelle pas de quelques relations que j'ai pu avoir avec lui.
Pourtant, il est à la maison, vos parents ne sont pas séparés.
Non, mes parents ne sont pas encore séparés, oui. Ils sont
Mais.
séparés, mais ils ne sont pas encore, ouais.
Ils sont.
Mais du coup, moi, je ne vis plus avec mes parents.
D'accord.
Donc, ouais, moi, j'ai quitté le domicile familial il y a quelques années, ouais.
D'accord. Donc, vous étiez toute jeune, vous aviez quel âge?
J'avais 17 ans quand je suis
17
partie.
ans, d'accord. Et vous êtes partie parce que c'était les études ou la vie active qui vous a fait partir, ou c'est parce que vous avez fui cette ambiance familiale?
Conflit familial, enfin conflit avec mon père.
D'accord.
Et c'était soit lui, soit moi, et c'est moi qui suis partie.
D'accord. Et ce conflit, il est sur quoi? C'est sur un autoritarisme de sa part? C'est sous fond
C'est ça,
religieux, pas
exact.
du, ou pas du tout? Enfin, il y a la religion là-dedans ou pas du tout?
Autoritarisme.
D'accord.
Oui. C'était ça exactement.
Et une
C'était
autorité qui
ouais.
revendiquait quoi? Enfin, vous avez eu le sentiment de quoi? Parce que.
C'était ouais, c'était ouais, c'était du manque de respect, c'était enfin c'était vraiment une volonté de montrer que c'était lui qui décidait à la maison et que c'était comme ça et pas autrement. Et moi, c'est quelque chose qui passe pas, qui j'ai vraiment du mal Enfin, pour moi, quelqu'un qui réclame du respect doit
Être
respecter
respectueux.
les autres. Et ouais, voilà, respecter les autres, être respectueux, mais inspirer aussi le respect. Et de par ses actions, il ne m'inspirait pas de respect. Donc, c'était vraiment très compliqué. On a le même tempérament, plus les conflits familiaux qu'il y a pu avoir, plus les manques de respect auxquels que j'ai dû voir, en fait. Au quotidien et
Entre qui et qui? Entre lui et votre mère ou?
oui principalement et
D'accord.
ensuite entre lui et ses enfants donc du coup moi et mes frères et après moi enfin ma mère elle est plutôt calme et elle rentre pas trop dans le conflit et je me suis sentie l'obligation de moi lui dire les choses. Mais du coup, c'est pas passé et il m'a vu. Enfin, J'ai dit, ouais, bah, j'irai de la maison, quoi.
D'accord.
Mais voilà.
D'accord. Et ça, c'est une histoire qui ne démarre que dans votre adolescence, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été toute votre, vous avez le sentiment toute votre enfance, que ce papa a toujours agi avec cet autoritarisme, qui d'ailleurs, vous savez, quand on est trop dans l'autoritarisme, c'est une preuve de faiblesse, hein, c'est que on veut
Ouais.
imposer un pouvoir dont on doute, parce que si on a le pouvoir, quand je dis le pouvoir, c'est pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir de la
Oui.
légitimité de sa position, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Et d'ailleurs, les enfants entendent et reconnaissent et respectent cette autorité. L'autoritarisme n'est pas une preuve de force, c'est une preuve de faiblesse.
Ouais.
Donc, cette position-là, est une position que vous avez toujours connue de votre père, dont vous avez vu votre maman subir ou souffrir la situation, les conséquences, la situation.
Ouais, toujours, toujours, oui. Depuis que je peux comprendre, depuis que j'ai la capacité de comprendre ce qui se passe autour de moi, ouais. J'ai toujours eu ce ressentiment-là. C'est juste que quand j'étais jeune, bah, j'étais trop jeune pour parler. J'avais aussi la peur. Il y avait aussi, oui, le. Ouais, fallait être courageuse quand même pour
Bien sûr,
s'opposer à son père,
bien
etc.
sûr,
Et
bien
quand j'ai
sûr.
senti que j'avais la force nécessaire de le faire, bah, je l'ai fait. Voilà.
Et alors, quel est vous êtes né dans, parce que vos parents, ils se sont aimés, j'imagine, ou pas? Ils se sont aimés, ils se sont désirés, ils ont désiré un enfant ou pas? Comment ça s'est passé? Vous êtes né dans quel contexte, vous?
Moi, mes parents, ouais, non, moi, pas c'est mes parents, c'est un mariage d'amour.
Oui.
Et c'était, oui, c'était une volonté de fonder une famille, etc. Ça s'est plus détérioré au fil des années après notre naissance, du coup. Après
Après
la mienne et celle de mes frères.
les trois, la trois, la dernière naissance ou dès la première naissance?
Non, je dirais peut-être dès la première.
D'accord.
Mais ouais, mais ça faisait. Ils m'ont eu à 28 ans, ça faisait depuis 16 ans. Enfin, ils avaient 16 ans quand ils se sont mis ensemble.
D'accord. Et
Donc, ouais.
donc ce mariage d'amour, c'était aussi bien du côté de votre papa que du côté de votre maman.
Ouais, oui.
Et comment vous comprenez que tout d'un coup ça est tourné au vinaigre?
Je peux même pas l'expliquer. Ouais, je sais pas du tout. Je sais pas. Parce que moi, je les ai toujours connus en conflit, en fait. Je les ai toujours connus comme ça. Donc, je crois ma mère quand elle me dit qu'ils s'aimaient avant. Je la crois totalement. Mais du coup, j'ai jamais vu ces preuves d'amour-là. Je les ai jamais vues. Donc, je sais pas.
Et comment comprenez-vous que votre maman soit restée avec votre papa?
Là, je dirais l'habitude, déjà. L'habitude, je dirais aussi, je pense qu'elle s'accroche à des souvenirs, entre guillemets, ouais. Elle s'accroche à des souvenirs qu'elle a bien vus, parce que c'était vraiment. Je sais qu'ils étaient vraiment très, très amoureux. Donc, peut-être qu'elle espérait que ça s'arrange un jour ou l'autre. Et aussi pour les enfants, parce que pour elle, des enfants, enfin, si ses enfants pouvaient avoir. Ses deux parents, c'était l'idéal.
Bien sûr, je comprends. C'est intéressant si je vous pose ces questions qui ont l'air d'être très loin de notre sujet de départ. C'est pour essayer de comprendre un peu comment les enjeux pour vous de la sexualité. Parce que vous voyez, alors quand je dis de la sexualité, il faut que je le dise plus lentement, de la sexualité, puisque comme on parle d'asexualité, on peut faire des confusions. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que je recherche. Donc, si vous permettez, je vous mets un tout petit peu en pause, le temps qu'on écoute une publicité. On est obligé d'y passer, que voulez-vous? Et on se
Ouais.
reprend toutes les deux pour aller plus avant sur votre histoire. D'accord?
Pas de souci.
À tout de suite, Marie.
La libre antenne d'Europe 1, Catherine Blanc, accompagne vos nuits.
Marie, vous êtes toujours là? Allô, allô?
Oui, allô?
Oui,
Pardon,
Marie.
je t'entends plus.
Non, je vous en prie. Alors, je profite de reprendre maintenant l'antenne pour vous dire que nous étions pendant notre conversation, nombre de SMS sont arrivés. Le sujet justement de l'orientation, qui n'est évidemment pas une maladie, comme le dit très
Ouais.
justement Théodora. Donc, c'est juste une organisation. Ça, c'est moi qui le complète. C'est une organisation psychique pour répondre aux enjeux de la relation, pour accueillir les possibles du corps. Bien évidemment que ça n'a rien à voir avec une maladie. Et ça, c'est important. Donc, il n'est pas question de vous étiqueter de quelque manière que ce soit, et surtout pas sur un terme qui serait un terme de maladie. Qu'est-ce que nous avons également Alors, il y a Lisa qui dit que vous soyez hétéro, bi, lesbienne, asexuelle. Eh bien, vous pouvez explorer vos fantasmes. Et je crois que Lisa, évidemment, n'entend pas que la difficulté, c'est la pulsion sexuelle elle-même. Et donc, les fantasmes ont du mal à pouvoir exister, puisque pour l'instant, vous ne cherchez que des choses qui sont de l'ordre, justement, que, d'ailleurs, c'est très bien, qui sont de l'ordre du romantique et de la tendresse, et surtout éloignées de la sexualité. Du coup, évidemment, les fantasmes n'ont pas lieu de vous questionner en ce moment, bien sûr. Et puis Tony qui nous dit que une personne apprend tous les jours à se connaître et une vie entière ne peut pas suffire pour se connaître. Donc vivez à fond l'instant présent. Et donc je rajouterai que donc si l'instant présent c'est de la tendresse et de la qualité de la relation, et bien ça c'est d'une grande richesse évidemment. Nous avons également Sophia qui dit qu'il n'y a pas de femmes frigides, il y a des hommes maladroits. Mais encore une fois, là, on n'est pas dans le sujet puisque cet homme est très adroit, puisqu'il a accepté de faire un pacte envers et contre son propre désir pour continuer à préserver une qualité de relation avec vous. Donc voilà. Et puis encore Théodora qui revient sur son clavier et qui dit qu'une femme peut être clitoridienne ou vaginale ou anale ou les trois à la fois et que vous devez apprendre qu'une dame doit apprendre à connaître son corps. Mais encore une fois, nous ne sommes pas encore sur ce sujet, Théodora, puisque la question de la sexualité n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, donc pour les petits SMS, merci d'ailleurs à vous auditeurs pour vos réactions. Vous étiez timide sur d'autres sujets, des sujets du deuil qui sont des moments plus difficiles. Et le sujet de la sexualité est un sujet qui nous concerne tous et sur lequel nous avons tous à réfléchir parce qu'il n'est pas, il ne coule pas de source contrairement à ce que l'on pourrait penser ou que l'on nous fait croire. Alors revenons à vous Marie. Je vous posais des questions un petit peu sur le contexte de votre vie, de votre venue au monde, de la relation parentale, tout simplement parce que nos parents sont les premiers référents de l'idée que nous faisons de l'amour. Et de l'amour, de ses possibles, et de la sexualité qui doivent les concerner, puisque même si les enfants ne sont pas au fait de ce qui se passe dans une chambre à coucher, ils interprètent au travers de la qualité de la relation ce qui peut s'y jouer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la sexualité est un mélange d'élan physiologique, mais sur lequel se juxtapose une lecture de ce que cela va représenter ou risquer ou permettre. Et donc, en l'occurrence, là, ce que vous venez de dire me semble une première piste à explorer, en tout cas que je vous invite à explorer, c'est que finalement, ce que vous m'avez dit, c'est que vos parents se sont aimés depuis l'âge de 16 ans et ceci longuement, jusqu'au moment où ils ont eu des enfants, à savoir à commencer par vous. Du coup, vous n'avez qu'une lecture du couple parental. C'est un couple en conflit, c'est un papa qui peine à trouver suffisamment sa place pour avoir besoin de la dire très fortement, ouvertement et de peut-être de façon tyrannique ou excessive, si ce n'est pas tyrannique. Ça, c'est la lecture que vous avez, vous, de la relation de vos parents, avec une mère qui arrondit un peu les angles, qui est plutôt douce et chaleureuse à l'égard de ses enfants, mais qui a perdu le lien avec son mari. Alors, ce qui est intéressant, d'abord, il faut savoir que ça concerne malheureusement énormément de couples, parce que souvent, les mamans, à l'occasion de leur maternité, trouvent le lien de tendresse, de chaleur, d'intimité avec leurs enfants, tellement de plaisir que souvent, d'abord elles sont aussi fatiguées, très sollicitées par leurs enfants, mais souvent désinvestissent un peu la sexualité parce qu'elles sont d'abord aux soins de leur enfant et aussi au plaisir de ce qu'elles créent dans le lien avec ces petits êtres issus d'elles. Et ça, c'est assez logique, on le comprendra. Vous m'entendez bien, Marie, parce que votre téléphone...
Oui,
d'accord. Donc ça, on peut évidemment très très bien le comprendre. Et souvent d'ailleurs, les papas sont assez perdus et souvent en deviennent agressifs parce qu'ils ont le sentiment d'avoir un peu été éliminés dans l'histoire. C'est ce qui fait souvent leur débordement et leur autorité, comme pour rappeler que ce sont eux les premiers de la liste, eux avant tout, eux qui dirigent, et c'est souvent ce qu'il fait du coup une façon tout à fait inappropriée de fonctionner avec leur épouse et par voie de conséquence avec leurs enfants qui deviennent un peu comme des rivaux, vous voyez ?
Oui.
Et donc ce que là vous me dites, c'est que vous avez l'idée que un couple s'entend qu'à la condition de ne pas avoir des enfants, un couple est heureux et amoureux qu'à la condition de ne pas avoir des enfants. Or, vous voyez ce que vous me disiez, Marie, c'est que oui. Vous êtes sans désir sexuel, comme si vous préserviez justement ce qui pourrait donner lieu à des enfants. C'est-à-dire que c'est comme si vous restiez dans quelque chose de totalement asexué, comme une maman avec ses enfants, ou comme le couple parental qui s'est aimé dans leur jeunesse, avant de passer à la construction d'un couple et d'une famille, et donc d'une sexualité pour construire cette famille, qui a amené au chaos de la relation.
Ouais.
Vous voyez, c'est comme si d'une certaine manière, vous préserviez votre relation, puisque vous disiez à un moment, c'était très joli, vous disiez c'était ou lui ou moi, comme si finalement, qui allait rester auprès de maman, ou lui ou moi, et vous entreteniez une relation asexuée bien sûr avec votre mère, et d'une certaine manière, soit vous reproduisez la relation de l'enfant que vous avez été avec sa maman, donc une relation asexuée, soit ce que vous imaginez de la relation idéale du couple parental, c'est-à-dire en amont de leur parentalité, c'est-à-dire pour s'assurer qu'on reste bien en amont de la parentalité, c'est surtout sans sexualité. C'est-à-dire que le meilleur contraceptif est encore l'absence de sexualité.
Ouais.
Et du coup, votre cycle, il se désorganise, parce que justement, le cycle, c'est ce qui est à l'origine, de la fertilité. Donc, comme par hasard, votre cycle fait n'importe quoi, il fait la Java. Et comme il fait la Java, vous n'avez pas du tout de bonne maîtrise de ce que pourrait entraîner une sexualité avec un cycle qui, un coup, fonctionne, un coup, dysfonctionne. Comme si vous vouliez vous empêcher toute fertilité, puisque c'est ça qui rompt le charme de la relation.
Oui.
Donc, en fait, vous restez dans le domaine complètement énamouré, complètement romantique, tendre, soutenant, qui s'éloigne de ce qui ferait le chaos, comme si vous vous accusiez, vous en tant qu'enfant, d'être l'origine du chaos de la relation amoureuse.
Ok. Oui, j'avais jamais vu ça comme ça, ouais. En fait, j'ai essayé de trouver des solutions, enfin, des explications surtout. Pourquoi j'avais pas eu de réponse précise, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Je savais pas que je voyais déjà la relation des parents de cette manière.
Mais ça vous parle, ça vous paraît? Parce qu'il n'est pas question d'abonder dans mon sens si vous trouvez ça complètement berlu, hein, bien sûr. Hein. Mais de ce que j'entends, moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez décrit vraiment une histoire un petit peu... Vous savez, un peu comme dans les contes, il y a toute une histoire merveilleuse avec le prince, la princesse, et puis après ça se termine par « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Et alors là, oui. On n'en entend plus parler, c'est-à-dire que ça se termine, l'histoire se termine.
Oui. Oui. Et moi, c'est comme ça. De base, oui, j'avais plus pensé, du coup, bah, en fait, je sais que, enfin, du coup, j'y ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit que c'était peut-être dû au fait, enfin... que j'étais très complexée vis-à-vis aussi de ce sujet-là. C'est-à-dire que vis-à-vis de moi-même, je trouve ça, par exemple, la sexualité, je trouve ça embarrassant, par exemple. Alors que ça ne me dérange pas d'en parler. Ça ne me dérange pas. Mais, par exemple, du coup, je ne vais pas juger la personne qui est en face de moi. Je ne vais pas juger les personnes qui pratiquent parce que sinon, je jugerais toute la population. Bien mais du coup, moi, je me juge moi-même, en fait.
C'est ça, mais bien sûr, mais vous vous jugez. Mais comme d'une certaine manière, vous semblez vous être jugé depuis le départ. C'est à la fois, vous jugez de ne pas être comme les autres. À la fois, dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous étiez à l'origine du terme d'une relation amoureuse. Donc, d'une certaine manière, vous vous flagellez beaucoup et vous vous privez. Pas question de vous vendre la sexualité comme un truc formidable, parce que la sexualité peut être absolument formidable, ou peut être une aventure qui se construit pas à pas, ou peut-être ennuyeuse pour certains, mais c'est une occasion d'en faire autre chose que ce qu'ont fait vos parents. C'est pas simplement un coït à but de reproduction, c'est aussi une façon de se parler par la sexualité, par le corps, nous, nous sommes en conversation les uns, l'un avec l'autre. Encore une fois, la question de l'hétérosexualité ou l'homosexualité, c'est le même. C'est-à-dire que dans la vie amoureuse, dans la vie corporelle, c'est une autre façon de se parler, c'est une autre façon de converser. C'est découvrir la multitude de vos compétences à rentrer en relation avec l'autre. Or là, c'est un peu comme si vous vouliez protéger ce qui vous paraît être le plus précieux, comme si la sexualité était quelque chose presque de mécanique, sans feu d'artifice, sans émotion, et qui faisait tout d'un coup réatterrir sur le plancher des vaches avec des marmots dans les pattes et une relation... une relation qui s'éteint en quelque sorte.
Oui.
Donc voilà Marie, c'est une première idée. Je vous laisse y réfléchir, je vous laisse peut-être laisser ça cheminer. Si jamais d'ailleurs vous faites des rêves à la suite de notre échange, quand je dis des rêves, je ne parle pas de rêves érotiques, mais si vous faites des rêves de quelque ordre que ce soit, n'hésitez pas parce que même à me recontacter, que ce soit pour passer à l'antenne ou pas d'ailleurs, parce que ça nous permettra de voir si ce que je vous disais est sur la bonne piste, parce que votre inconscient, très naturellement, va essayer de répondre à cette proposition que je viens de faire, et où il bottera en touche, où il alimentera un peu plus et vous permettra de comprendre un peu plus loin et ne pas en rester simplement à un regard de jugement sur vous-même.
D'accord, ok. Ok, bah alors je reviendrai vers vous du coup. Je vais bien y réfléchir et je vais voir.
Voilà, comme vous le disiez sur la sexualité, ne vous jugez pas. Et ne jugez pas ce que vous venez d'entendre. Laissez-le cheminer tranquillement. Si ça n'a pas sa place, ça disparaîtra. Si ça a sa place, ça vous ouvrira des portes.
D'accord, nickel.
D'accord.
Bon, merci beaucoup.
Je vous en prie, Marie. Passez une très bonne soirée et peut-être à bientôt.